6h03 exactement, jeudi 14 février, journée de la Saint-Valentin. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, d'abord, les prévisions pour la région métropolitaine. On a actuellement un petit peu de neige, très faible neige, c'est moins 7 degrés. Et il y aura comme ça des flocons un peu durant la journée. Ça va se dégager par la suite avec une alternance de soleil et de nuages. Les vents sont modérés, maximum prévu, moins 5 degrés. Ce soir, ça se couvre. La neige va commencer durant la nuit. On parle de 2 cm de neige pendant notre sommeil et le minimum sera de moins 8 degrés. Vendredi, il y a un peu de tout. Les prévisions ont changé. D'abord, ce sera de la neige qui va devenir de la pluie intermittente au cours de l'après-midi. Et on parle demain d'une accumulation supplémentaire de 5 cm avec des vents jusqu'à 60 km/h et le maximum prévu, plus 2 degrés. Et finalement, en fin d'après-midi, en soirée, le ciel va se dégager et ce qui nous conduit vers un week-end qui s'annonce extraordinaire, c'est-à-dire du soleil samedi moins 3 et dimanche ensoleillé aussi avec autour de moins 8 degrés. Puisqu'on parle de neige et de température, c'est clair que les opérations de chargement de neige commencent à Montréal. Ça va être long parce que quand même, il est tombé pas mal de neige, une quarantaine de centimètres dans la région de Montréal. Et je sais que souvent, on critique, on chiale, puis on le disait au début de l'émission, mais c'est pas parfait. Mais on peut dire que hier, je pense que c'est une combinaison de facteurs. Les gens ont compris que si tu n'étais pas obligé de prendre ton véhicule, c'est une bonne idée de rester chez vous, faire du télétravail quand c'est possible, prendre le transport en commun. Et hier, quand tu te promenais à Montréal, c'était comme une journée de fin de semaine, là, hein. Un dimanche relativement tranquille, où ce qui a permis de ne pas avoir un impact trop important sur le réseau en termes de volume de voitures. Et le ministère du Transport a fait sa job correctement, puis des entrepreneurs privés. Je pense que c'est important de le souligner ce matin. Et il y a des gens qui vont devoir sortir leur véhicule du banc de neige, par exemple, parce que je me promenais un peu ce matin, je regardais ça, là. J'ai même vu quelqu'un, la voiture était ensevelie, et la personne a mis un cône, fameux cône orange, sur le toit du véhicule, justement pour dire, écoutez, il y a une voiture qui est là, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est dans les prochains jours que les équipes de chargement de neige vont passer. Autre nouvelle, on a appris donc qu'il y a une centaine de Québécois, certains me disent une soixantaine, là, j'ai eu des courriels, de gens qui sont coincés à Port-au-Prince, dans un hôtel, ce sont des clients de Air Transat. Alors, c'est l'hôtel Royal de Cameron, et le courriel que j'ai reçu, là, je vous en fais part rapidement, c'est d'abord, ils sont à peu près une soixantaine. Ils sont bloqués dans l'hôtel. Pourquoi? Parce que la route entre l'hôtel et Port-au-Prince, et donc l'aéroport, est actuellement bloquée. On sait qu'il y a eu des scènes de violence. Il y a des protestations en Haïti contre le président. Ce sont de violentes manifestations. Il y a eu mort d'hommes. Et ce qui empêche donc les autobus de faire le transfert, ce qui fait que les gens sont coincés là. Et la personne qui m'écrit me dit qu'il n'y a pas de livraison de nourriture, un. Deux, il y a des gens qui ont besoin de médicaments parce qu'ils devaient quitter et là, ils ne quittent pas. Il n'y a personne qui donne signe de vie à l'hôtel. Pas de nouvelles de Air Transat. Et là, ce qui vient ajouter à la frustration, ils me disent que les touristes américains et européens qui étaient là ont pu être transportés par hélicoptère vers l'aéroport, donc de l'hôtel à l'aéroport. Mais pour les gens qui sont du Québec ou encore les Canadiens, il n'y a rien qui se passe. Alors, on va essayer d'avoir des nouvelles de ça. Est-ce que les gens qui ont été transportés ont payé un frais additionnel pour l'aéroport? C'est pas clair. Il semble qu'ils ont été pris en charge par leur compagnie. Et là, Air Transat ne donne pas de nouvelles. Et est-ce qu'Air Transat va aller les chercher? Ça ne semble pas être le cas. Mais c'est inquiétant parce que de prendre la route alors qu'on est en plein contexte de manifestation, forte présence policière, puis ça brasse pas mal, disons que c'est sûr qu'il y a un niveau d'anxiété assez élevé. Ensuite, ce matin, deuxième dossier, l'affaire SNC-Lavalin. Il y a plusieurs volets. Je vous résume ça. D'abord, M. Trudeau a énormément de pression. Le comité de la Chambre des communes sur la justice, contrôlé par la majorité libérale, a bloqué le témoignage qui avait été réclamé de l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. On a aussi bloqué le témoignage des principaux collaborateurs de M. Trudeau, Ce qui fait que les témoins entendus, dont l'actuel ministre de la Justice, ça va être un cours 101 sur les relations entre le politique et la justice. Rien de très concret. Alors, on comprend que les libéraux veulent étouffer l'affaire et ne veulent pas qu'on puisse interroger des témoins, des acteurs de ce qui s'est passé. La question est toujours la même. Est-ce que M. Trudeau ou des gens de son bureau ont exercé une pression ou ont donné une directive à la ministre de la Justice pour que le règlement se fasse hors cours, dans ce qu'on appelle la réparation, entre SNC-Lavalin et Ottawa pour les histoires de corruption? Deuxième question. La ministre qui a démissionné, si elle a subi une pression, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas levé les feutres quand il y a eu cette pression-là? Elle quitte alors qu'elle a été mutée au ministère des Anciens Combattants, puis on peut comprendre la frustration. Elle n'était pas contente, c'est sûr. Puis troisièmement, comme ces dispositions existent de réparation, comme ça existe aux États-Unis, comme ça existe ailleurs, pourquoi on ne veut pas régler avec SNC-Lavalin? Et là, évidemment, on accuse M. Trudeau de vouloir favoriser une entreprise qui a toujours été proche du Parti libéral, une entreprise qui a une culture de corruption qui s'est étalée sur de nombreuses années, tant à l'étranger qu'ici, dans deux cas documentés, c'est-à-dire évidemment le CUSUM et aussi la Société des ponts. Et le dossier litigieux entre Ottawa et SNC-Lavalin, ça concerne des années de corruption d'une cinquantaine de millions versé en Libye pour l'obtention de contrats. Puis on peut penser que c'était vrai en Libye, puis c'était vrai ailleurs, puis c'était vrai pour un paquet de compagnies qui, dans ces pays, tentent d'obtenir des contrats. L'autre volet qui est aussi intéressant ce matin, c'est dans la presse, qu'on apprend que deux accusés, deux anciens cadres de SNC-Lavalin, qui font face, eux aussi, à des accusations de corruption, qui ont obtenu pour leur défense tous les courriels qui ont été échangés avec des cadres supérieurs de Lavalin entre 2001 et 2011. Et parmi ces gens-là, vous retrouvez Jacques Lamarre, qui était le patron, Paul Baudry, Gilles Laramie et Michael Novak. Le procès doit s'ouvrir le 8 avril. Et on sait qu'il y a un des accusés, qui s'appelle Stéphane Roy, qui est un ancien vice-président contrôleur de la firme, qui est accusé de fraude. Lui, ce qu'il va défendre, d'abord, il a demandé un arrêt Jordan en disant « ça fait assez longtemps que ça traîne devant un tribunal ». Mais la défense, c'est quoi? C'est de dire « moi, j'ai exécuté les ordres ». Et les ordres venaient d'en haut. Et des décisions qui impliquent des sommes aussi colossales. On ne parle pas ici des billets de hockey, là. On parle de millions. On doit faire transiter les fonds par des compagnies puis par des intermédiaires. C'est sûr que ça s'est pris à haut niveau. Et c'est ce qu'il va tenter de démontrer. Et la question finale dans tout ça, est-ce qu'on laisse tomber SNC-Lavalin et les emplois? Est-ce que la réparation, c'est pas la forme de règlement qui a du sens dans la mesure où tu pénalises l'entreprise, qu'on puisse poursuivre? Je suis d'accord avec vous là, que les condamnations dans l'affaire du CUSUM, ça laisse un goût amer. Mais je reçois plein de courriels de gens de chez Lavalin qui me disent pourquoi ça a été vrai pour d'autres entreprises qu'on peut régler, par exemple, avec le gouvernement du Québec, avec la ville de Laval, à des échelles réduites. Là. Pourquoi ça ne pourrait pas être la même chose? Puis faut à la porte les dirigeants quand ils en traînent peut-être encore, puis imposer des amendes, puis imposer des conditions, puis laisser la porte ouverte à des poursuites aux criminels si jamais ce n'est pas respecté. Alors, on reviendra avec l'opposition un peu plus tard ce matin concernant le dossier de SNC-Lavalin. 6h13, Marc Lay, Point chaud. Merci beaucoup. On poursuit avec les dossiers du gouvernement de la CAQ. Il y a comme trois dossiers là, qui apparaissent. Tout le dossier de l'immigration, les signes religieux, on ne parle que de ça, et aussi, bien sûr, les maternelles 4 ans. Alors, le ministre Robert Chanvien, le ministre de l'Éducation avec les maternelles 4 ans, sujet de débat. Entre-temps, en France, vous savez qu'on doit scolariser maintenant de façon obligatoire les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Dans les faits, c'est déjà le cas. La raison pour laquelle le gouvernement français légifère, c'est qu'il y a des disparités régionales. Donc, il y a des endroits où seulement 70 % des enfants sont scolarisés à partir de 3 ans. Et aussi, on ajoute une autre dimension, c'est-à-dire de poursuivre les études jusqu'à 18 ans. En fait, d'être actif. Soit, par exemple, un cours régulier, si on veut une formation professionnelle, mais il faut poursuivre les études au-delà de l'âge de 16 ans. Donc, ici, on s'en vient avec les maternelles 4 ans. Et là, on est en train de faire l'inventaire pour voir la faisabilité de ce projet. Alors, il y a des défis, le ministre. On sait que l'histoire de la récréation, là, qui semble d'une complexité sans nom, deux périodes de 20 minutes par jour, là, les gens montent aux barricades. Et là, c'est le dossier des maternelles 4 ans. Dans le cas de l'immigration, je ne sais pas pourquoi le ministre s'entête, là. Là, vous avez des avocats qui sont regroupés, les avocats qui défendent les immigrants, qui disent, est-ce qu'on peut prendre les dossiers puis les régler? 18 000, ça se fait. Et il y a un côté humain à ça. Et moi, je dis, commençons par les gens qui sont ici. Là, M. Legault dit, on ne les mettra pas dehors, je comprends. On peut-tu se mettre à leur place? Ils sont ici, ils travaillent, ils sont installés, ils ont une famille. Ils ont fait une demande pour devenir des immigrants en bonne et due forme. Puis là, on leur dit quoi? On sac ça à la poubelle, le grand, puis recommence. Et dans toute sa splendeur, le gouvernement, le ministère de l'Immigration, le seul geste qu'il a trouvé à poser, c'est on va vous renvoyer l'argent que vous avez déboursé pour l'étude de votre dossier, puis recommencer le processus. Fait que si le ministère de l'Immigration est si souple que ça, pourquoi vous ne prenez pas les quelques dossiers qui sont là? Il y en a quelques milliers. Puis vous ne les passez pas à partir de vos nouveaux critères pour voir si la personne peut ou non être reçue comme immigrant et obtenir les documents pour ensuite aller chercher la citoyenneté canadienne au gouvernement fédéral. Là, on va les appeler. C'est comme, je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou... mais il me semble qu'il y a moyen de traiter ça autrement. Puis là, le dossier des signes religieux, je sais que ça vient de partir. Moi, je ne suis plus capable des nouvelles sur les crucifix, là. Les directeurs d'école qui envoient une directive, puis là, t'enlèves le crucifix. Mais non, pourquoi? Il n'y a pas de... Sincèrement, là. Alors, on s'en va vers, et c'est l'objectif du gouvernement, trouver un consensus. Qu'est-ce qui serait consensuel? Bernard en parlait hier matin. C'est peut-être l'introduction de la clause grand-père qui va permettre aux gens qui sont déjà à l'emploi, donc policiers, surtout on parle des enseignants, là, d'avoir un signe religieux, mais pas pour les nouveaux. Et on sait qu'il n'y a pas de restriction pour les libéraux. Donc, c'est la liberté, en autant que le visage est découvert. Dans le cas de la CAQ, on a ajouté à Bouchard-Taylor les profs. Le PQ veut ajouter les garderies, les CPE. Puis Québec solidaire, on ne le sait pas. Dans le sens que... je pense que quand on peut lire entre les lignes, ils ne sont pas à l'aise avec les restrictions là, imposées concernant le port de signes religieux. Officiellement, c'est Bouchard-Taylor, mais là, ils seront en congrès dans les prochaines semaines pour réfléchir là-dessus. Ce matin, parlons aussi un peu d'éducation. Là où c'est intéressant, c'est dans le Devoir où on apprend que parce qu'on manque de profs dans les écoles, puis on en manque désespérément, il y a des certificats qui sont donnés à des gens qui ont un DEC, donc qui ne sont pas qualifiés pour être profs. Mais là, on a vraiment une pénurie, ce qui fait qu'il y a l'Université donc, du Québec en Abitibi qui offre un certificat en accompagnement à l'enseignement primaire qui vise à donner des profs suppléants aux commissions scolaires. Offert à distance depuis 2 ans, ça permet à des profs qui n'ont officiellement qu'un DEC d'enseigner au primaire sans avoir le fameux brevet d'enseignement. Ça arrive à tous les ans que des profs qui n'ont pas le brevet, mais qui ont une formation universitaire, peuvent aller donner des cours, aller donc remplacer des profs dans les écoles, même s'ils n'ont pas le brevet d'enseignement. Mais là, vous avez, parce qu'on manque de monde, là, recours à des gens qui ont un DEC. Puis en Ontario, la demande pour l'immersion française est tellement forte que là aussi, on embauche des profs qui ne sont pas qualifiés. Et dans certains cas, des profs qui doivent enseigner le français dans un cadre d'immersion, puis qui ne parlent pas tellement français, qui ont de la misère à tenir une conversation. Alors, ça vous donne un peu une idée là-dessus. Je veux, en fait, vous mettre à contribution ce matin. On a beaucoup parlé de cette opération sur ce réseau qui a blanchi des centaines de millions de dollars appartenant à des organisations criminelles dans le cadre de trafic de stupéfiants. Et on sait que le cash roulait, là. Le journal nous dit ce matin qu'un des dirigeants, celui qu'on présume être le chef de ce réseau, a payé 4 condos cash en une seule année. Puis il est propriétaire là, d'un condo qui a payé 400 000 $ sur la rue Drummond, un autre qui a payé 400 000 sur la rue Paré, un autre qui a payé 740 000 sur la rue Jean-Béraud à Laval. Et là, tu te dis, attends un peu, là, payer ça cash, arriver avec, je ne sais pas moi, 750 000 $ comptant dans une valise, puis t'achètes le condo. Je ne suis pas tout à fait naïf, je sais que ça se fait. Il y a déjà un concessionnaire automobile qui m'a raconté qu'un jour, quelqu'un est arrivé, puis c'était un véhicule assez luxueux, mettons 70 000 $ puis la personne a payé comptant. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Elle dit rien, il a le droit. On comprend que quelqu'un qui arrive avec une valise, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a rempli un matelas pendant 10 ans avec des petites économies. C'est souvent de l'argent que tu veux blanchir. Mais là, il faut que ça soit déclaré maintenant. Mais quelqu'un qui arrive, là, si vous êtes, vous avez un commerce, il y en a qui nous écoutent ce matin, des entrepreneurs en construction, des gens qui, je sais pas, sont dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la voiture, quand quelqu'un vous arrive avec un montant comme celui-là, puis qui paye ça comptant, vous faites quoi? Racontez-moi un peu vos anecdotes là-dessus. J'aimerais ça vous entendre. Je poursuis la revue de presse aussi ce matin pour vous dire qu'il y a un important réseau de braconnage qui a été démantelé. Ça se passe dans la région du lac Saint-Pierre. C'est l'opération Cormoran. On visait Yamachiche, Louisville. Il y a une quarantaine de personnes qui, semble-t-il, sévissaient. Et là, quand on parle de braconnage, on vise spécifiquement le doré, la perche chaude, des oiseaux migrateurs, des canards, la bernache, l'oie blanche. Puis également en Mauricie, le cerf de Virginie, l'orignal, l'ours noir, le coyote et le dindon sauvage. Et on sait qu'en raison, entre autres, de la baisse de la population de perches chaudes au lac Saint-Pierre, c'est actuellement interdit en tout temps. Il y a un moratoire et les braconniers, eux, évidemment, faisaient fi des règlements et se livraient à leurs activités. Certains, semble-t-il, le faisaient pour des raisons personnelles. Et on pense également qu'il y a certains produits qui ont pu être revendus. Alors, vous retrouvez ça ce matin dans le Nouvelliste. Et ça fait pas mal le tour de l'eau. J'ai peut-être un mot pour vous rappeler qu'il y a à peu près quoi, 1,5 million de véhicules F-150 qui sont rappelés. Donc, la compagnie Ford pour l'Amérique du Nord, c'est à peu près là, 220 000 camions pour le Canada et c'est un problème de transmission. 6h22. Allons-y avec la métropolitaine.